Bienvenue aux Apatrides Anonymes, spécialement, exceptionnellement, le mardi 7 juin, 17h30, en direct des studios de Choc à l'UQAM à Montréal. D'habitude, on est les jeudis à 17h30 ou deux semaines, mais là, il y a eu des petits
contretemps.
Et là, il y a eu depuis quelques émissions, quelques petits contretemps à Choc et de nous-mêmes et sur le site. Et donc, mais nous sommes en direct en ce moment. Et pour ceux et celles qui nous écoutent en balado, ben, nous sommes bien le 7 juin à 17h30 à choc.ca. Donc, les Apatrides Anonymes, on traite d'immigration, de frontières, de racisme, de sécurité nationale, de droits humains, de différentes choses, de différents enjeux internationaux, nationaux et locaux. Je suis Mathieu, en compagnie de Marie-Ève.
Salut,
bonsoir.
Salut Mathieu.
Salut. Et Simon.
Allô tout le monde. Salut, hello. Salut.
Salut, salut. Donc, gros programme aujourd'hui. On est en onde pour 70 minutes. On va avoir, entre autres, des actualités sur les enjeux autochtones. On va revenir un petit peu sur les élections en Ontario. On va parler d'Israël et de Palestine. On va parler aussi différents enjeux d'immigration au Québec et au Canada, dont l'accès au CPE pour les personnes à statut précaire. On va parler d'Italie aussi. On va avoir un petit agenda à la fin de l'émission et de la musique de Thomas Carbou, Kiaville et Bardo aujourd'hui à l'émission. Donc, nous sommes sur le site de Choc. Évidemment, nous avons une page d'émission qui est à jour actuellement pour les dernières émissions. Notre site apatridesanonymes.info, une page FB pour plein d'actualités et aussi un courriel apatridesanonymes@resist.ca. Et nous sommes aussi diffusés sur Radio Victoria sur l'île de Vancouver. Donc, quelques notes de musique et on commence avec un premier sujet costaud en Europe. Donc, je vais commencer avec l'agence Frontex, dont on a souvent parlé dans nos chroniques sur l'immigration en Europe, entre autres. Nouvelle qui date déjà il y a quelques semaines, mais Fabrice Leggeri a présenté sa démission à la direction de l'Agence européenne de surveillance des frontières, dit Frontex, suite à un rapport de l'Office européen de lutte antifraude, l'accusant de pratiquer des pushbacks, refoulements illégaux de migrants en français, surtout en mer Égée. Et surtout de les avoir dissimulés. C'est ça,
oui,
un peu l'enjeu.
Ça.
Donc, des preuves qui ont conduit l'Égérie à larguer les amarres et à prochainement réintégrer le ministère de l'Intérieur français, d'où il provient.
Ben oui, ben qu'il y retourne.
Qu'il y retourne. Donc, le rapport de l'OLAF, c'est l'Office européen de lutte antifraude, c'est pas un personnage de BD. Donc, le rapport de l'OLAF retient 3 motifs contre l'ex-directeur: non-respect des procédures, déloyauté à l'égard de l'Union européenne et ses institutions, ainsi qu'une mauvaise gestion des équipes de l'agence. Frontex aurait aussi couvert les agissements des autorités grecques, coupables d'avoir repoussé les migrants partis de Turquie pour essayer d'atteindre les rives européennes. Ce n'est pas la première fois que Frontex fait l'objet d'accusations concernant ces refoulements illégaux. Un consortium de journalistes avait dénoncé une première fois en mars 2020 la complicité d'un bateau de Frontex, témoin passif d'un pushback en mer Égée par les autorités grecques. En avril 2021, le consortium met en lumière le rôle des gardes frontières européens qui ont averti les autorités libyennes de la présence de migrants au large de leur pays. Et on sait ce qui arrive après aux migrants qui retournent en Libye. Récemment, les journalistes ont révélé de nouveaux faits durant la période de mars 2020 à septembre 2021. Les agents de Frontex ont contribué à repousser des centaines, voire des milliers de migrants hors d'Europe, sauf qu'ils répertoriaient et consignaient ces opérations illégales sous le terme de prévention au départ dans la base de données. Donc, c'était dur un petit peu à déchiffrer pour les enquêteurs.
La novlangue de Frontex.
Prévention au départ. L'enquête établit que les agents de Frontex ont localisé, arrêté les bateaux de migrants et ont laissé, en toute connaissance de cause, le soin aux gardes frontières grecques de les renvoyer vers la Turquie. Fabrice Leggeri dirigeait Frontex depuis 2015. Sous sa houlette, l'autorité humanitaire perçue comme chargée du sauvetage en mer des migrants est presque inconnue du grand public, est devenue une gigantesque organisation policière. Depuis la crise migratoire de 2015, le nombre de gardes frontières et gardes-côtes n'a cessé d'augmenter et devrait atteindre 10 000 individus d'ici 2027. Et ce ne sont plus des fonctionnaires envoyés par les États membres, mais des fonctionnaires de police recrutés directement par Frontex.
Ah, c'est ça.
Ils portent un uniforme européen ainsi qu'une arme à la ceinture. Son départ survient alors que l'ONU rappelait il n'y a pas longtemps que 3 000 migrants sont morts en mer sur la route de l'Europe en 2021. Plus précisément, 1924 serait décédé en Méditerranée occidentale et centrale. Pour l'ONG Frontex, l'Égérie n'aurait pas dû démissionner, il aurait dû être licencié il y a des années. Il est la façade, mais le problème demeure au sein de Frontex, de la Commission et des États membres. Ce sont eux qui orchestrent les politiques frontalières criminelles à travers l'Union européenne. L'Égérie était seulement assez corrompue pour les exécuter. Et pendant ce temps, dans la belle Suisse, une fois n'est pas coutume, mais les Suisses ont fait un pas en direction de l'Union européenne en approuvant à 72% le financement de la réforme de la controversée agence Frontex lors d'un référendum il y a 2 semaines. Un refus aurait mis la Suisse à la porte de Schengen, selon le gouvernement de l'espace Schengen. Pour la députée suisse du centre, le oui des Suisses à Frontex ne signifie pas pour autant que les Suisses ont changé d'avis vis-à-vis de l'Union et qu'ils veulent l'intégrer. Mais quand on parle de sécurité, une majorité de citoyens soutiennent ces initiatives. Sinon, un nom aurait fragilisé davantage les liens entre la Suisse et l'Union européenne qui sont tendus depuis que cette dernière a soudainement décidé en 2021 de mettre fin à des années de discussions en vue d'un accord cadre avec l'Union. Dans le référendum au niveau de la réforme du financement, il est prévu que la Suisse fournisse plus de personnel et porte sa contribution financière annuelle à 61 millions de francs suisses. Contre 24 millions en 2021 pour Frontex.
Donc, c'est beaucoup.
Malgré les, ouais, c'est ça, on passe, oui, on double, on triple quasiment la contribution et le nombre de personnes, on le quadruple. Et ce qui est drôle, c'est que Frontex est dans la tourmente, donc c'est quand même assez particulier. Donc, voilà pour les nouvelles de Frontex. Retenez ce nom et on va voir si le prochain dirigeant est un ministre de l'Intérieur italien, peut-être, ou quelque chose comme ça.
Il n'y a pas Manuel Valls qui cherche un job actuellement.
Ah, t'as raison, Simon. Bon choix. On reste en Europe, Marie-Ève, pas très loin de la Suisse.
En Italie, d'ailleurs.
En Italie,
oui,
écoute.
C'est ça. Puis beaucoup en mer Méditerranée, vous allez voir. En Italie, les arrivées de personnes migrantes par la Méditerranée, justement, sont toujours aussi nombreuses. Dans la seule semaine du 9 mai, ce sont plus de 1000 personnes qui ont débarqué sur l'île de Lampedusa. Les nombreuses arrivées à Lampedusa coïncident avec une hausse des tentatives de traverser de la Méditerranée depuis les côtes d'Afrique du Nord, parce que la météo est plus clémente depuis le mois d'avril. À leur arrivée à Lampedusa, les exilés ont été conduits vers le seul point d'enregistrement de l'île, ce qu'on appelle un hotspot, dont la capacité maximale d'accueil de 250 places est régulièrement, et je dirais même constamment, dépassée. Même que selon des médias italiens, 1000 personnes se trouvaient dans le centre la semaine du 16 mai, alors que le maximum, c'est 250.
Oui, c'est 4 fois plus, on dit, hein, c'est ça?
Et selon le maire de Lampedusa, Salvatore Martello, le nombre de bateaux de migrants secourus en Méditerranée puis laissés à l'abandon est aujourd'hui un problème à tel point qu'il représenterait un danger pour les bateaux de pêche et pour la sécurité des pêcheurs eux-mêmes. Mais il n'y a pas seulement l'île de Lampedusa qui est débordée. La Sicile connaît aussi une forte hausse des arrivées par la Méditerranée. La même semaine, le navire Geo Barents de Médecins sans frontières a secouru 470 personnes au large de la Libye au cours de 7 sauvetages différents et réclamait depuis ces sauvetages-là l'attribution d'un port sûr pour pouvoir les débarquer. Après 11 jours d'attente, les rescapés ont finalement pu débarquer sur l'île dans le port d'Agusta le 21 mai. MSF communiquait depuis plusieurs jours sur la situation qui devenait de plus en plus tendue et précaire sur le bateau. La plupart des rescapés à bord du Geo Barents avaient subi des violences physiques. Tu parlais de la Libye, justement.
Oui, des gardes-côtes libyens. Ouais.
C'est ça. 4 ont embarqué pour la traversée avec des os fracturés, résultat de blessures infligées pendant leur séjour en Libye. MSF a dénoncé aussi les autorités maltaises pour leur inaction. Je cite, les forces armées maltaises, qui sont les premières responsables des sauvetages dans la zone de recherche et de sauvetage maltaise, ont été informées en même temps que nous, mais sont restées silencieuses et inactives, négligeant leur obligation légale de fournir ou de coordonner une assistance. Elles ont également ignoré notre demande de port de sécurité. Et puis ensuite, le 17 mai, ce sont 450 autres personnes à bord d'un bateau de pêche, cette fois-ci, qui ont débarqué dans le port sicilien de Pozzallo, qui est au sud de l'île, là, vraiment au bout. Les îles italiennes, bon, sont les points d'entrée là, principaux des migrants partis de Libye ou de Tunisie vers l'Europe, mais depuis le début de l'année, les arrivées sont également en hausse dans le sud du pays, par exemple dans les Pouilles ou en Calabre. D'après les autorités, il y a près de 14 800 personnes qui ont débarqué en Italie depuis le début de l'année, contre 13 200 l'an dernier, à la même période l'an dernier. Plus de 4 000 sont arrivés en mai seulement. Environ 17 % de ces exilés sont originaires d'Égypte, 15 % du Bangladesh, 11 % de la Tunisie, 8 % d'Afghanistan et 6 % de la Syrie. Les autres, on doit ajouter des ressortissants ivoiriens, érythréens, guinéens, iraniens et soudanais, qui varient entre 2 et 5 %. Autre chiffre inquiétant, eh bien, l'Italie a connu un nombre record de mineurs non accompagnés en 2021, selon un rapport du Haut Commissariat pour le réfugié des Nations Unies. Ce sont 10 000 de ces jeunes qui sont arrivés dans le pays par la mer sur des embarcations de fortune. C'est deux fois plus qu'en 2020.
Mm-hmm.
C'est une hausse qui s'inscrit dans un contexte d'arrivées plus nombreuses en 2021 en général, là, toute catégorie d'âge et de vulnérabilité.
Par rapport à 2020.
Oui, c'est ça. Toute catégorie d'âge et vulnérabilité confondues, le HCR recense 53 323 personnes débarquées en Italie par la mer en 2021. C'est une augmentation de 83 % par rapport à 2020. Et parmi toutes ces arrivées-là, les mineurs non accompagnés représentent donc près d'une personne sur cinq, soit 19 %.
Mm-hmm.
Beaucoup des départs se font depuis la Tunisie. D'ailleurs, en mars 2022, le Forum tunisien des droits économiques et sociaux affirmait dans son rapport annuel que plus de 2700 mineurs avaient réussi à joindre l'Italie depuis la Tunisie en 2021. Et là encore, la grande majorité, soit un peu plus que 2000 d'entre eux, étaient non accompagnés. C'est quatre fois plus qu'en 2017. Donc, c'est vraiment un phénomène qui s'amplifie. Tous ces chiffres-là, en plus, concernent seulement les jeunes ayant réussi à rejoindre l'Italie. Hein. Plusieurs décèdent ou sont portés disparus au cours de leur traversée. Et selon le HCR, ces traversées-là s'expliquent par le manque ou l'absence de programmes et de services de protection des jeunes tout au long des routes migratoires qu'ils empruntent. En leur donnant trop peu de perspectives, cette situation-là les pousse à prendre des voies dangereuses, dont la traversée de la Méditerranée. Et pour ouvrir des voies plus sûres de mobilité, le HCR insiste sur, et je cite, le besoin urgent de renforcer les services de protection, les activités et l'accès à des solutions, dont la réunification familiale, pour répondre aux besoins et aux aspirations de ces enfants et adolescents-là. Je vais conclure sur une bonne note quand même.
Ah,
hein?
C'est bien,
oui,
Marielle,
c'est ça. Une bonne note en plus sur le front de la criminalisation de la solidarité. Andrea Costa, qui est président de l'association italienne Baobab Experience, et deux autres employés de l'association ont été acquittés début mai par un tribunal de Rome. Ils étaient accusés d'aide à l'immigration illégale et risquaient entre 6 ans et demi et 18 ans de prison. Il y avait 18 ans quand même.
Ouais.
Petit retour sur les faits.
Ouais.
Baobab Experience, qui est basée à Rome, propose depuis 2005 un soutien aux migrants en transit dans la capitale italienne. Donc, en 2016, Andrea Costa, qui était alors sur écoute électronique, évoque 9 migrants qui voulaient se rendre au camp de la Croix-Rouge à Vintimille, à la frontière avec la France.
Mm-hmm.
Costa et ses employés ont donné de l'argent aux 9 migrants pour acheter des billets de train ou de bus pour qu'ils rejoignent la ville frontalière. Et c'est pour cette raison-là qu'ils étaient jugés 6 ans après les faits.
Quel crime grave.
Pour avoir, donner
de l'argent.
Voilà. Bon, c'est sûr que là, avec cette heureuse nouvelle, la section italienne d'Amnesty International est soulagée de la décision du tribunal. Mais l'ONG considère qu'Andrea Costa aurait jamais dû faire l'objet d'une investigation. Non. Je cite, l'enquête a duré trop longtemps et s'est inscrite dans une ligne de criminalisation de la solidarité qui fait que des individus et des organisations de recherche et de sauvetage en mer ont été entravés et bloqués dans leur action en faveur des droits de l'homme. Parce que, on vous en a déjà parlé, comme on sait, depuis plusieurs années, l'Italie, mais pas que, là, plusieurs autres pays européens, intentent des procès contre des humanitaires et poursuivent en justice des ONG qui portent secours aux migrants, migrantes en Méditerranée.
Ouais.
On n'a qu'à penser à la capitaine du Sea-Watch 3, Carola Rackett, qui avait été poursuivie pour avoir forcé en juin 2019 l'entrée dans le port de Lampedusa avec 42 migrants secourus au large de la Libye.
Forcée dans le sens qu'elle n'avait pas l'autorisation. Là.
C'est ça, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Matteo Salvini, avait refusé de laisser accoster le navire humanitaire dans le cadre de sa politique des ports fermés.
Uh-huh.
Puis, dans le cas de Carola Rackett, c'est seulement l'année dernière là, qu'un tribunal sicilien avait finalement abandonné les poursuites contre Carola Racquette. Mais juste pour parler d'un dernier petit cas, une autre affaire qui avait fait les manchettes en Italie ces dernières années, puis je vais conclure là-dessus. Mm-hmm. Domenico Lucano, le maire de Rias, en Calabre, avait été condamné en septembre dernier à plus de 13 ans de prison pour incitation à l'immigration clandestine. Il était accusé, entre autres, d'avoir organisé des mariages de convenance.
Oui, j'en avais parlé de ça.
C'est ça,
ouais.
Pour aider des femmes déboutées du droit d'asile à rester en Italie. Sa condamnation, avait évidemment provoqué une onde de choc en Italie, notamment parce que ce genre de peine-là, qui est presque le double des 7 ans et 11 mois qui avait été initialement demandé par les procureurs.
Quand même, hein, 7 ans.
C'est ça, puis là, il était condamné à 13 ans, tu sais. donc c'est le double de ce qui avait été demandé, comme je disais, par les procureurs. Ben ce genre de peine-là est en général réservé aux membres de la mafia sicilienne puis aux grands criminels, tu sais. Et cette affaire-là est d'ailleurs toujours en cours, puisque en attendant son appel, Domenico Lucano est assigné à résidence.
Oui, c'est ça, c'est un appel actuellement.
C'est
donc,
ça.
Oui, on en avait parlé à l'automne dernier, tout à fait.
Fait qu'elle est belle, l'Italie.
Oui, merci Marie-Ève pour toutes ces informations, ces chiffres, ces analyses.
Oh, excusez, c'était beaucoup.
Non, mais ce qu'on retient,
vous
c'est que...
Vous l'écouterez au ralenti.
Les choses sont à surveiller, disons, et ça ne s'améliore pas.
Non.
On va aller en musique. Première chanson, première pièce de l'émission. C'est le projet Bardo avec deux R. La pièce, c'est « Te voilà tombé du ciel ». C'est dans le palmarès de choc. J'en parle plus après. La pièce « Te voilà tombée du ciel » du projet Bardot avec deux R. C'est l'album double qui s'appelle « Équivoque au pluriel », un volume plus folk et un volume plus rock que j'ai choisi. C'est sorti en mai dernier. C'est le projet de Pierre-Alexandre du groupe Fudge. Et là-dessus, il y a des invités comme un cœur, vous avez entendu, comme des cordes aussi. C'est son troisième album de ce projet-là qui s'appelle Bardot. C'est sur les disques Poulet Neige et c'est dans le palmarès francophone de choc cette semaine, depuis quelques temps. Donc, à découvrir sur Bandcamp ou ailleurs sur le web. On va changer de sujet, on va y aller avec des... Ben, on peut changer de sujet tant que ça, on va y aller plus au niveau local et national.
On est toujours aux apatrides quand même.
Là, oui, 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 on ne mettra pas à parler de musique pendant une demi-heure, non, là, c'est sûr. Non, non, merci Simon de me rappeler à l'ordre. Donc, pour t'introduire, je voulais juste quand même nommer une certaine bonne nouvelle quand même. C'est un suivi dont on a parlé, d'un suivi d'un sujet dont on a parlé dans les dernières semaines. Il y a à peu près une semaine et demie, la Cour supérieure du Québec a tranché. Les demandeurs d'asile ont le droit à nouveau d'avoir accès aux garderies à 8,50 $ par jour pour les enfants. Depuis 4 ans, les demandeurs d'asile n'avaient plus accès aux garderies à tarif réduit, une décision du gouvernement de Philippe Couillard maintenue par la Coalition Avenir Québec. Le juge considère que le gouvernement du Québec n'a pas le droit de faire de distinction et d'exclure les demandeurs d'asile de cette aide financière. L'effet de la décision est d'annuler le règlement et de renvoyer les élus à la planche à dessin, ou de juste rien faire puis laisser ça comme ça. Anecdote assez drôle, quelques heures après le jugement, le ministère de la Famille a soutenu que cette décision n'avait pas d'effet immédiat dans une directive interne envoyée aux différents CPE. Je cite, « Le ministère de la Famille souhaite informer le réseau qu'un jugement a été rendu ce matin dans une cause portant sur l'admissibilité des demandeurs d'asile aux places à contribution réduite. Le jugement n'a pas d'effet immédiat. Le ministère souhaite donc préciser qu'il n'y a aucun changement à l'application des critères pour l'instant. » Et ça, évidemment, tant que personne n'est allé en appel, c'est pas vrai parce que c'est un pourvoi, puis ça casse une décision, donc c'est applicable immédiatement. Une professeure de droit a rappelé que c'est inexact de prétendre que la décision de la Cour supérieure ne prend pas effet. Le jugement est en effet tant que le gouvernement ne va pas en appel. Et d'ailleurs, depuis 2 semaines, on n'a pas su s'il y allait en appel le gouvernement du Québec là-dessus. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aille pas en appel, puis que le règlement revienne comme il était avant, parce que c'est vraiment un problème pour les enfants des demandeurs d'asile ou des gens en attente de statut. Donc, on va voir la réaction, mais ça serait vraiment bien que ça reste comme ça, puis que ça soit une petite victoire, enfin, qu'on ait dans cette ambiance actuellement un peu difficile, hein, Simon?
Ben oui, même Pauline Marois déplorait le fait qu'on puisse pas envoyer les enfants en service de garde au tarif régulier.
Ben oui.
Donc, quand même, cette dame...
cette grande dame du Parti québécois.
Ben oui, de Madame Inclusion.
Donc, vas-y, Simon, avec tes nouvelles sur l'immigration aussi.
Ben, je risque de parler pas mal du chemin Roxham, mais d'autres petites nouvelles, là, les oreilles du chemin Roxham ont dû lui sciller dernièrement, là, parce que disons que c'est très, très instrumentalisé comme phénomène. La semaine dernière, l'Assemblée nationale a adopté officiellement le projet de loi 96 ou réforme de la loi 101 de notre préféré, l'adoption à majorité, avec l'appui de Québec solidaire qui, en principe, n'était pas d'accord avec certaines dispositions. Mais en tout cas, dit que Québec solidaire prend le pouvoir, ils vont réajuster. Donc, genre de scénario science-fiction un petit peu ici.
Pas là. Fort comme réaction, disons. Non.
C'est un peu décevant.
Ouais.
Une des fameuses dispositions, en plus de la non-reconnaissance totale des langues autochtones, là, je pense qu'ils sont même pas mentionnés dans le projet de loi, la disposition, ce serait celle qui interdit aux fonctionnaires de donner des services autres qu'en français aux immigrants qui seront ici depuis 6 mois et plus. Clause très controversée. Je sais pas comment ça va se passer dans la pratique. Donc, est-ce que les fonctionnaires auront accès à une note au dossier de chaque personne indiquant la date d'entrée sur le territoire québécois? Ça me surprendrait, mais ça semble un peu difficile à appliquer. Comme souvent c'est le cas dans ces genres de projets de loi très électoralistes, là, on se soucie peu...
Idéologique aussi, là.
Oui, très idéologique, on se soucie pas vraiment de l'application. On pitche ça dans la cour des fonctionnaires, ceux qui font le service à la clientèle. Débrouillez-vous avec ça. C'est sûr que ça va donner lieu à toutes sortes de situations absurdes et des abus, même peut-être certains travailleurs du secteur public qui seront peut-être des gros élus nationalistes qui vont en profiter aussi pour
appliquer leur idéologie.
Ben voilà.
Et d'autres qui seront sanctionnés parce qu'ils ne voudront pas le faire, là, ces genres de trucs de même.
Ben oui, il va peut-être avoir de la délation aussi. Donc, puis imaginez le nombre d'erreurs possibles à cause d'une mauvaise compréhension du français, les délais, les coûts supplémentaires que ça peut engendrer parce que tu dois recommencer des démarches parce que tu n'as pas compris une phrase en bon québécois. On prévoit des exceptions du genre lorsqu'il y aurait une urgence, mais encore là, c'est pas bien défini c'est quoi une urgence, alors ça va être difficile de le démêler. Ce qui est urgent de ce qui l'est pas, ça va finir par être du ressort du libre-arbitre, finalement, du fonctionnaire. Donc, il faut s'attendre à ce que des nouveaux arrivants comprennent... S'attendre à ce que des nouveaux arrivants comprennent parfaitement des explications techniques en français sur notre bureaucratie, sur l'adhésion à tel programme, dans tel formulaire, c'est complètement irréaliste.
Oui, à l'aide sociale et à la CSST, c'est pas pire ça,
oui. Oui. Puis il y a plein de représentants des différents secteurs de la santé, des services sociaux, l'éducation, entre autres, qui sont battus contre certaines dispositions du projet de loi, qui ont fait des sorties médiatiques, qui ont envoyé des mémoires pour décrire des situations précises où l'application stricte de la loi va mettre en péril non seulement la qualité des services, mais parfois la santé et la sécurité des personnes. Mais le gouvernement a fait la sourde oreille sur les points qui ont été soulevés et le projet de loi a été présenté en assemblée, à l'Assemblée générale et adopté tel quel, sans aucune modification. Donc, on ne souhaite pas à M. Legault de devoir émigrer dans un endroit anglophone parce que « it will gonna do much very difficile ». Ou en Pologne, oui. Comme, après 6 mois, ben tu ne parles pas polonais, ben M. et Mme Legault, pas de service.
Non, pas de service.
Notre cher PM en rajoutait récemment sur son habituelle équation « immigrant égale français en danger », alors qu'il demandait au fédéral de rapatrier environ 10 % de ses actuels pouvoirs en immigration en réclamant la gestion de tout ce qui est regroupement familial pour y appliquer des critères linguistiques plus stricts. Donc, il est un peu en train de se fabriquer une crise constitutionnelle en vue des prochaines élections.
Bien sûr, c'est pratique.
Oui, puis c'est toujours gagnant politiquement. Donc, Legault parlait de rien de moins que la louisianisation du Québec. On en a beaucoup entendu parler. Ça a fait le tour, ça a choqué pas mal. C'est un exemple extrêmement boiteux. Au Québec, on a 94 % de gens qui parlent le français, pas nécessairement comme langue principale, mais qui se débrouillent, versus 3 % en Louisiane.
Ouais.
Donc, on relaxe un peu. Tout ça, pour le recrutement familial, c'est surtout pour des parents d'immigrants. Donc, on a une cohorte à peu près de 10 000 par année. Une certaine proportion sont allophones. Certains sont francophones aussi. C'est souvent des personnes âgées, même plus en âge de travailler, alors que leurs enfants et petits-enfants, en vertu de la loi 101, vont à l'école française.
Évidemment.
Donc, selon la logique du gouvernement provincial, ce serait pertinent de refuser la réunion d'une grand-maman qui parle seulement espagnol avec sa famille d'origine salvadorienne immigrée à Montréal. Cette grand-maman-là mettrait le français en péril au Québec.
Oui, tout à fait.
Tout à fait.
J'ai peur.
Et tout ça alors qu'actuellement, on constate dans toutes les commissions scolaires une explosion des inscriptions aux classes d'accueil en français, aux primaires particulièrement, mais ça, Legault, Jolin Barrette, Jean Boulet, ben, ils ne le mentionnent pas.
Non.
Au niveau éducation supérieure, le gouvernement veut repeupler les régions, autres que Montréal, la méchante anglophone assimilatrice, en ciblant certaines disciplines, évidemment, où le patronat veut plus de main-d'œuvre. La mesure, c'est de réduire de manière assez importante les coûts d'inscription dans certaines régions pour les non-citoyens. Donc, au cégep, on passerait de frais de 17 000 à 0 $ au niveau universitaire de 24 000 actuellement à 3 000, les mêmes frais que paient l'ensemble des Québécois. Monsieur Boulet a bien vulgarisé la situation, je le cite. Je connais pas sa voix, je connais pas tant que ça, mais...
Non, je peux pas t'affaire, non.
OK, bon, tu arrives dans une région, tu te fais un chum, tu te fais une blonde, un petit rochon, une petite bigra. C'est gagnant pour assurer une intégration durable aux valeurs de notre société.
Ah, il a dit ça pour de vrai, hein?
J'ai rajouté rochon et bigra, mais le reste est textuel. Mais pour ce faire, bon, faudra déjà régler le taux de refus hallucinant des étudiants étrangers par Ottawa, dossier qui traîne, qui est toujours pas réglé.
Ouais.
Et aussi la question du logement qui criante autant en région qu'à Montréal et à Québec. Donc voilà pour l'éducation, l'aspect éducation scolaire à un niveau plus fort. Tu as parlé tantôt des CPE
aussi.
Donc ça, c'est une mesure assez importante. Donc merci au juge d'avoir cassé ça parce que ça avait des conséquences assez... d'abord, on dit que c'était inconstitutionnel et discriminatoire, surtout pour les femmes et pour les enfants, là, évidemment.
Exactement.
Donc, je vous parle un peu du chemin Roxham, jeu de ping-pong, encore une fois, entre le fédéral et le provincial. Le provincial qui n'arrête pas de demander à Ottawa de « fermer », entre guillemets, le fameux point de passage irrégulier.
Mm-hmm.
D'un côté, on nous dit que tant que l'entente des tiers pays sûrs va être valide, les négociations avec Washington sont vraiment pas proches d'aboutir, là, de ce que j'ai pu comprendre. Mais en attendant, c'est quand même mieux d'avoir un passage irrégulier où il y a une certaine forme de prise en charge des demandes d'asile, plutôt que avoir des personnes migrantes qui traversent complètement n'importe où, se ramassent automatiquement en situation de clandestinité en pleine zone boisée. Et de l'autre côté, il y en a qui affirment que ça fait porter un poids trop lourd au Québec par rapport aux autres provinces. Certains osent même comparer ça aux îles grecques ou italiennes. N'est-ce pas, Marie-Ève? Mais j'ai lu des éditoriaux qui parlaient de ça.
Oh, j'en doute pas.
Pour terminer, la palme de la démagogie revient ex aequo au péquiste Pascal Bérubé et au grand chef Paul de Saint-Pierre Plamondon.
Grand chef.
Oui, grand chef pour je sais pas combien de temps encore, qui parle à l'unisson du chemin Roxham comme d'un complot d'Ottawa pour affaiblir le français au Québec.
Bien sûr.
Saint-Pierre Plamondon dit que c'est définitivement intentionnel de la part de Trudeau, donc personnellement, j'imagine, de faire en sorte que les arrivées régulières nuisent aux capacités de francisation du Québec. PSPPP dit qu'il faudrait plutôt ouvrir un chemin Roxham en Ontario, qui, contrairement au Québec, est une province avec un projet multiculturaliste.
Ah, ben oui, c'est vrai.
Donc, dans leur tête monoculturelle, le Québec est une partie de SimCity. On peut sélectionner un élément, on sélectionne le chemin Roxham, on le copie, on le colle un peu plus vers l'ouest, en plein milieu du lac Ontario. Simple de même, dossier réglé. Bref, ça annonce une campagne électorale provinciale à l'automne, très sale. On risque de revivre 2006-2007 avec Mario Dumont, sa crise des accommodements raisonnables. Les personnes immigrantes vont être responsables de tout au Québec, principalement de le français.
Et des mauvaises choses, évidemment.
Des mauvaises choses. Et avec Drainville, le grand architecte de la Charte des valeurs qui se joint à la CAQ, c'est pas pour nous rassurer ou pour hausser le débat.
Hey, merci Simon pour toutes ces bonnes nouvelles. Écoute.
Les bonnes nouvelles de chez nous.
Oui, voilà. OK, donc on va y aller avec quelques... Merci Simon. On va y aller avec quelques notes de musique et je vous parle tantôt de... Je reviens sur les élections en Ontario et Simon nous parle d'Israël et Palestine. Donc, toujours aux apatrides anonymes, donc je vous reviens sur les élections ontariennes qui avaient lieu jeudi dernier, le 2 juin. Un événement qui a eu lieu pendant la campagne qu'on n'a pas beaucoup entendu parler au Québec, mais qui est assez révélateur. Le candidat progressiste conservateur et figure de proue du gouvernement sortant, il s'appelle Stephen Lecce, s'est excusé après la révélation de sa participation à une vente aux enchères d'esclaves en 2006, évidemment entre guillemets. C'est Press Progress qui avait publié un article à peu près au milieu de la campagne alléguant que Lecce, alors étudiant à l'Université Western, avait participé à un événement baptisé « Vente aux enchères d'esclaves ». Il s'agissait d'une vente aux enchères tournée en farce dans laquelle les enchérisseurs gagnants obtiennent les services d'un membre du club pour un temps donné. Club à l'université, évidemment. On avait fait remarquer que lorsque Stephen Lecce était ministre de l'Éducation il y a quelques mois, son gouvernement avait supprimé un préambule au programme de mathématiques qui reconnaissait les impacts du colonialisme. Et évidemment, il y a eu beaucoup de levées de boucliers de la part de candidats-candidates noirs dans les différents partis. Mais M. Lecce a été réélu, mesdames et messieurs.
Bon, il va être bon. Hein?
Il va être bon. C'est une des vedettes. Hein? Un des poids lourds. Sinon, les enjeux autochtones ont été largement ignorés. Là encore, je vous surprendrai pas beaucoup. J'imagine. Selon le chef régional de l'Ontario pour l'Assemblée des Premières Nations du Canada, Glenn Eyre, année après année, j'ai l'impression que les enjeux touchant les Premières Nations sont de moins en moins présents dans les campagnes électorales. Pendant la campagne, aucun des quatre partis d'Ontario n'a fait de promesses ou d'annonces visant directement les Premières Nations. Et aucun chef de parti n'a visité de communautés autochtones dans la province. Un des enjeux les plus importants concernant le cercle de feu dans le nord de l'Ontario n'a même pas été abordé par les politiciens. La construction d'une route pour se rendre à ce gisement minier sème la controverse chez les Premières Nations de la région et aussi en général dans la province. Les dossiers importants pour les Premières Nations de l'Ontario soient l'accès à l'eau potable, au logement, la lutte contre la pauvreté et les droits issus des traités ont peu progressé au cours des quatre dernières années. Et même la question la découverte des dépouilles d'enfants autochtones, la question de racisme systémique, ça n'a pas fait que la campagne en a parlé plus. Et vous savez que Ford a été réélu encore plus majoritaire, avec beaucoup moins de votes, et que les autres partis se sont effondrés, et qu'il y a deux nouveaux partis encore plus à droite que le parti progressiste conservateur, New Line et Ontario Party, qui n'ont pas eu de députés, mais qui ont eu des pourcentages relativement intéressants, entre 2 et 3 %. aux élections ontariennes jeudi dernier.
Quand même, c'est pas comme si l'Ontario, je pense qu'ils ont à peu près tous les enjeux autochtones qu'on retrouve à travers le Canada au complet, on les constate en Ontario, oui. Que ce soit l'eau potable, des sites contaminés.
Non, mais politiquement, c'est clair que l'Ontario se rapproche de plus en plus de l'Alberta. Oui,
tout à fait.
De
l'Alberta et du Parti conservateur du Canada.
Au niveau
idéologique, là. Oui. Puis la question des revendications territoriales en Ontario qui est très importante aussi avec plein de luttes. Donc, voilà, on n'a pas beaucoup parlé ici. Je voulais juste vous souligner quelques petites informations par rapport à ça. Donc, Simon, on change complètement d'univers. Là.
Complètement.
Il n'y a pas de transition. On s'en va au Proche-Orient et tu nous parles du conflit israélo-palestinien.
Oui, ben on va rester exactement dans cette région-là. Ce qui a remis un peu les projecteurs sur la région, entre autres, c'est la mort de la journaliste d'Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, tuée par des soldats israéliens le 11 mai dernier. Elle était avec un collègue journaliste au camp de réfugiés de Jenin en Cisjordanie. Son collègue a été grièvement blessé, il a survécu, mais elle est morte sur le coup, des balles au haut du corps et à la tête. Ils avaient des casques et des dossards marqués presse, très visibles, très évidents. Tout ça a été bien capté sur vidéo. Il n'y a vraiment aucune ambiguïté possible. Mm-hmm. Le procureur en chef palestinien conclut à un assassinat ciblé. Donc, selon lui, les soldats israéliens visaient délibérément les deux journalistes. Évidemment, les responsables israéliens nient, affirment que c'est probablement à l'œuvre de combattants palestiniens. Je me rappelle pas si on a utilisé le mot terroriste encore. Donc, disent qu'il y aura une enquête, tout en maintenant secret les rapports des soldats impliqués. Depuis les premières vidéos qu'on a pu voir et qui étaient déjà quand même assez claires, il y a eu d'autres vidéos encore plus accablantes qui sont sorties. Au point que même CNN rejette aujourd'hui la propagande israélienne. Fox non, mais CNN.
Oui,
gros. C'est inquiétant, pour les médias, pour l'information dans la région. On a besoin de ces journalistes sur le terrain pour nous rapporter toutes les horreurs qui s'y produisent. Certains se demandent, en sont rendus à se demander qui seront les prochains journalistes à être assassinés par des soldats israéliens.
Et elle était américaine, elle, en plus, aussi.
Elle était américano-palestinienne.
C'est ça, elle avait des deux souverainetés, quand même.
Exactement.
Ouais.
En plus de tout ça, vous l'avez peut-être vu, la police israélienne a décidé d'attaquer le cortège funèbre de Mme Abu Akleh pendant que la foule... C'était horrible. Pendant que la foule transportait son cercueil qui se maintenait en équilibre de peine et de misère. C'est tellement disgracieux. Là,
ça. Ah ouais,
faut aller voir, il y a des vidéos de ça qu'on trouve facilement en ligne. Donc, résultat, 13 Palestiniens blessés, dont 2 gravement. Tout ça pour aucune raison. Je pense que le prétexte qui était invoqué, c'était qu'on chantait des chants palestiniens.
Avec des drapeaux.
Ouais. Donc, Al Jazeera veut saisir la Cour pénale internationale de toute cette affaire-là.
Mm-hmm.
Pour mémoire, Shirin Abu Akleh, elle était une journaliste vedette, comme on disait, palestino-américaine, mais née à Jérusalem. Elle vivait et travaillait à Jérusalem-Est. 25 ans de couverture du conflit israélo-palestinien pour le compte d'Al Jazeera, donc depuis 97. Elle avait travaillé pour de différents médias indépendants auparavant et aussi pour le UNRWA, là, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en Palestine et au Proche-Orient. Je continue sur le vaste dossier Israël-Palestine pour le restant de mon segment, mais je me transporte dans des pays occidentaux, parce qu'avec la diplomatie, les campagnes BDS, surtout, ça trouve des échos partout. Donc, France, Allemagne et Canada, Ontario, plus précisément, des vins vendus au LCBO, la SAQ ontarienne, des vins étiquetés comme étant israéliens, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a déclaré que leur étiquetage était trompeur.
Mm-hmm.
Ça concerne 2 vins produits en Cisjordanie, en territoire illégalement occupé. Alors, pour qu'un vin soit « made in Israel », il doit provenir de l'intérieur des frontières internationalement reconnues,
mm-hmm.
Ce qui n'était pas le cas pour ces 2 vins-là. Donc, j'en profite pour saluer le travail d'un militant de Winnipeg, David Kattenberg, qui depuis 2017 scrute les pays d'origine de produits dits israéliens, mais qui en réalité proviennent de colonies illégales.
Mm-hmm.
C'est un pléonasme.
Ouais.
Ça peut sembler un détail, mais c'est important de se rappeler que ces territoires-là n'appartiennent pas à Israël, donc pour nous éviter peut-être de tomber dans la banalisation, la normalisation de la colonisation. En Allemagne, une nouvelle un peu plus importante, après une saga juridique qui opposait la ville de Stuttgart à une association locale, le Palestina Committee Stuttgart, la ville avait décidé de retirer son soutien au comité en raison de sa promotion de BDS, boycott des investissements, sanctions. entre autres en retirant le lien de l'association du site web de la ville et en arrêtant d'annoncer ces événements. Donc, des affaires qui peuvent sembler symboliques, mais le tribunal de Stuttgart a donné raison au comité Palestine et ordonné à la ville de continuer à les traiter de manière équitable comme pour les autres associations locales. Un deuxième jugement rendu par le même tribunal ordonne à une banque qui avait fermé les comptes du Palestina Committee, toujours en raison de son appui à BDS, de les réouvrir. Donc, on est vraiment à des niveaux très locaux.
Administratifs, là,
ouais, quasiment. Administratifs, mais ça s'inscrit dans un mouvement plus large de réhabilitation, en quelque sorte, du mouvement BDS depuis que la plus haute instance judiciaire allemande, en janvier, a affirmé de manière définitive, et il n'y a plus d'appel possible, là, que le mouvement est tout à fait légal.
Légal, c'est ça.
Donc, petit à petit, à différents niveaux, il y a des décisions comme celle de Stuttgart qui viennent réaffirmer la légitimité, en fait, du mouvement BDS, qui était quand même très diabolisé en Allemagne pour des raisons historiques.
Mais attaqué aussi, puis un lobby pro-israélien aussi, puis tout ça. Fait
qui est très fort, ouais, et ouais. Ben, tout ce qui touche forcément la question juive de manière très, très large et générale en Allemagne, ben, c'est toujours délicat et émotif.
Pas qu'en Allemagne, de toute façon.
Ben, je crois
France,
qu'il y a une...
c'est pareil. Ici, c'est pareil. C'est le mouvement BDS est assez diabolisé partout.
Oui, il est diabolisé partout, mais il y a peut-être une sensibilité supplémentaire en Allemagne, ouais, qu'on peut retrouver.
Ouais.
Mais au point de vue des démarches, des poursuites
la
contre le mouvement,
là,
la répression, effectivement, le Canada n'est pas en reste là non plus. Donc, c'est pour ça que ce sont des décisions importantes qui viennent remettre un peu les pendules à l'heure et réaffirmer qu'ils se battent contre la violence de l'occupation israélienne, ben c'est pas antisémite, même en Allemagne. En France, autre décision de justice pas mal importante, et surtout, on se réjouit d'un revers assez personnel pour Macron et Darmanin, son sbire, qui avait décidé comme ça, pour plaire à certains lobbies, de dissoudre le collectif Palestine Vaincra, qui soutient les luttes des Palestiniens contre l'oppression de l'État d'Israël et qui promouvoit BDS, évidemment. Il faudrait que Macron et son Cerbère, tout ce qui est soutien aux musulmans, aux migrants, tout ce qui est antifasciste et même anti-olympique de plus en plus, ben tout ce qui est un peu critique à leur endroit, ils ont la dissolution.
Très facile.
Un peu facile, mais on se rappelle entre autres la dissolution de Nantes Révoltée, Médias Indépendants, qu'on apprécie beaucoup ici aux Apatrides. Le Conseil d'État, fin avril, a invalidé la dissolution du collectif Palestine Vaincra. C'est quand même un gros pavé dans la mort répressive macroniste. Je ne sais pas s'il va comprendre la leçon, mais le message est clair. Donc, Monsieur le Président, ça suffit de dissoudre à qui mieux. Donc, voilà pour Israël-Palestine. On pourrait continuer. Il y a plein d'exemples.
Dans deux semaines, tu nous feras la suite, Simon. Il n'y a pas de problème.
Oui, je suis un habitué des restants.
Non, mais écoute, on a tellement de stock, tellement de contenu. Moi aussi, j'en coupe toujours un peu. Des fois, Marie-Ève aussi. Pas toujours, mais de temps en temps.
Oui.
Puis, puis Israël-Palestine, quand on suit ça pour de vrai, il y a tellement de nouvelles puis tellement de...
Il va falloir que je vous parle de Carrefour, l'énorme empire agroalimentaire.
J'aimerais ça.
Qui sont à fond dans Israël de plus en plus.
Oui, dans l'investissement.
Voilà.
On va y aller en musique pour une deuxième pièce. C'est l'artiste, le projet Key Evil, la pièce See My Shadow.
See My Shadow.
Et on s'en reparle, je vous en parle dans quelques minutes. See you. un petit peu de musique expérimentale avec l'artiste, ben, le projet Key Evil, la pièce See My Shadow, de l'album Crease, sorti en mars dernier. C'est Vicky Mettler, son nom, mais elle a plein de monde qui l'entoure. C'est son premier album. Elle est de Montréal, c'est sur Constellation. Et elle est en concert le 11 juin à Ottawa et le 17 juin à la Sala Rossa à Montréal dans le cadre du Suoni per il Popolo, festival de musique de création qui a lieu tout le mois de juin à Montréal. Et en première partie, c'est le trio Mark Molnar, Jessica Moss et Meredith Bates. Donc, un bon concert le 17 juin à la Sala Rossa. Et c'est pas dans le palmarès, mais ça pourrait l'être parce que c'est vraiment... moi, j'aime bien ce mélange de pop, de noise, d'expérimental et avec une voix et des textes intéressants. Donc, voilà ma Marie-Ève, écoute, avant de t'introduire avec les actualités autochtones, je vais te parler d'une situation là, qui s'est développée dans les dernières semaines. Ben, au premier jour de l'enquête du coroner, au premier jour de l'enquête du coroner, la famille de Chantal Moore a déposé une poursuite civile contre la ville d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick, et le policier Jeremy Sun qui a tiré sur elle et l'a tuée. Deux plaintes avaient été déposées à la commission de police du Nouveau-Brunswick pour demander le congédiement du policier et la suspension de son collègue. La commission avait décidé de ne prendre aucune mesure. Les services des poursuites juridiques du procureur général de la province avaient également choisi de ne pas accuser le policier impliqué suite à un rapport du BEI. On rappelle que le 4 juin 2020, un agent du service de police d'Edmonton s'est rendu au domicile de Chantal Moore pour faire une vérification de bien-être. C'est lors de cette intervention qu'elle a été abattue. Alors, on se rappelle, on en avait parlé ici à quelques reprises. Oui. Trois jours plus tard... le jury à l'enquête du coroner sur sa mort est arrivé à un verdict. La mort de la femme autochtone de 26 ans est un homicide. Après 4 jours d'audience, le jury a formulé plusieurs recommandations afin d'éviter qu'un drame semblable ne se reproduise. Les recommandations, Marie-Ève, tu vas les reconnaître. Les services de police doivent établir davantage de liens avec les Premières Nations. Une formation soit offerte aux policiers sur les réalités culturelles spécifiques aux Autochtones. Qu'ils soient formés en intervention dans des situations où une personne pourrait être en état de crise et aussi en désescalade dans des situations critiques. On recommande aussi la création d'une agence indépendante qui enquêterait sur les cas de mort aux mains des policiers, vu qu'il n'y en a pas au Nouveau-Brunswick, là. Il y a seulement, ils prennent le BEI quand ils en ont besoin. Donc, à la suite des conclusions de l'enquête, le chef Alan Polchies de la Première Nation, Sitansik Wolastoqiyik, a insisté pour dire que les gouvernements, dont celui de Blaine Higgs, avaient la responsabilité d'agir pour que cesse le racisme envers les Autochtones. Le racisme systémique est réel dans cette province et nous avons besoin d'action et de justice, a-t-il affirmé. D'ailleurs, les 6 chefs de la Première Nation Wolastoqi affirment que l'enquête de la coroner démontre le besoin urgent d'une enquête sur le racisme systémique au Nouveau-Brunswick dirigée par les Autochtones. Et en terminant, c'est toujours la même, vous allez voir, hein? La coroner Emily Casey, qui présidait donc évidemment l'enquête, a rappelé que les institutions visées par les recommandations avaient maintenant 6 mois pour répondre. Elle a toutefois rappelé qu'aucune de ces institutions, qu'il s'agisse du gouvernement ou des corps policiers, n'était tenue d'agir en fonction des recommandations qui ne sont que des suggestions. Même si c'est un jury formé de citoyens, c'est pas, comment on dit ça? C'est pas décisionnel, mais c'est pas contraignant.
Contraignant,
voilà.
C'est ça.
Donc, voilà pour la suite de Chantal Moore. Il y a une poursuite, on vous en parlera dans les prochains mois. Marie-Ève, Actualité autochtone Québec-Canada?
Oui, ben je vais surtout vous parler, en fait, de vous donner des nouvelles de la lutte des Premières Nations, Wet'suwet'en et Wemec, contre les pipelines Coastal GasLink et Trans Mountain. À la fin avril, dans une lettre envoyée au gouvernement canadien, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a, pour une troisième fois depuis 2019, tu sais, il n'y a pas juste dans les enquêtes policières hein, que ça prend du temps avant que le message passe, donc pour une troisième fois depuis 2019, condamné la poursuite de grands projets d'infrastructures énergétiques en Colombie-Britannique. Dans sa lettre, le comité écrit que selon ses informations, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont intensifié leur recours à la force, à la surveillance et à la criminalisation des défenseurs de la terre et des manifestants pacifiques pour intimider, éloigner et expulser des forces les nations Sekwemec. J'ai vraiment de la misère à le dire Sekwemec. Pemk et Wet'suwet'en de leurs terres traditionnelles. Mm-hmm. Le comité pointe plus précisément du doigt les pratiques de la GRC et son groupe d'intervention pour la sécurité de la collectivité et de l'industrie, le JC, qui est responsable d'assurer une surveillance stratégique des incidents dans le secteur de l'industrie et l'énergie. T'sais.
milice privée pour l'industrie. Hein?
Exactement ça.
Ouais.
De son côté, la GRC a confirmé avoir augmenté ses patrouilles autour des chantiers de construction du gazoduc Coastal GasLink et dit avoir pris cette décision-là à la suite de ce qu'elle a qualifié, je cite, « d'affrontement violent ». Qui visait des travailleurs survenus en février dernier. Mathieu, tu nous en avais parlé. À ce moment-là, des employés de Coastal GasLink avaient affirmé avoir été attaqués par une vingtaine de personnes qui étaient munies de rien de moins que de haches, apparemment.
Mm-hmm. Ils n'ont pas d'idée tomahawk, hein,
James? Non, une maudite chance. De son côté, Janelle Chouahe, qui est porte-parole de la GRC en Colombie-Britannique, a affirmé qu'il n'y a pas eu d'intervention policière en lien avec l'opposition à l'expansion de l'EED Trans Mountain dans la province depuis septembre dernier, lorsque des travailleurs ont été bloqués sur un chantier au nord-est de Kamloops et que quatre personnes ont été arrêtées.
Ça, c'est Trans Mountain, oui.
C'est ça. Sauf que dans le Grand Vancouver, deux manifestantes opposées au projet d'extension du pipeline Trans Mountain ont été arrêtées le 10 mai dernier par la GRC de Burnaby. La police dit avoir répondu à un signalement de 6 manifestantes près d'un chantier vers 11h. Les policiers ont constaté que deux femmes avaient franchi la clôture du chantier.
Ooh.
Elles ont été arrêtées peu après. Elles ont été libérées jusqu'à leur comparution devant le tribunal. La police affirme qu'elles ne font pas face à des accusations d'outrage criminel.
Donc, ça s'est pas passé dans le Nord, mais dans le Grand Vancouver.
Ouais, c'est ça. C'est quand ils disent qu'il n'y a pas eu d'intervention dans la province, qu'ils disent à l'intérieur des terres, là, t'sais, ils considèrent que le Grand Vancouver, c'est comme autre chose.
Oh là là, OK.
C'est ça. Le comité de l'ONU demande au Canada de suspendre la construction des gazoducs jusqu'à l'obtention du consentement des Premières Nations et réclame une enquête sur les méthodes de la GRC, dont l'usage de la force.
Mm-hmm.
Il donne au Canada jusqu'au 15 juillet pour répondre aux préoccupations exprimées dans sa lettre, qui ne sont pas, Mathieu,
contraignante.
Voilà. Sinon, eh bien, la lutte continue, évidemment. Le 12 mai, il y a eu un rassemblement devant la place Mille-Marie où se trouvent les bureaux montréalais de la RBC, la Royal Bank of Canada, pour exiger que la banque arrête de financer les infrastructures de l'industrie des énergies fossiles, y compris les projets d'oléoduc Trans Mountain et de gazoduc Coastal GasLink. Le rassemblement était appelé par Amnesty International Canada francophone, Greenpeace Canada, Extinction Rébellion Québec et d'autres groupes en solidarité avec la nation Wet'suwet'en. Le chef Namok, qui est chef héréditaire Tsiayuh de la nation Wet'suwet'en, parce que les chefs héréditaires de la nation s'opposent au projet, mais pas les chefs de bande.
Pas le conseil de bande,
c'est ça. Il était venu de la Colombie-Britannique pour l'occasion, mais c'est sans grande surprise que les représentants de la RBC ont refusé de le rencontrer. La banque s'en est tenue à des déclarations vides et à de la langue de bois du genre « La banque respecte le droit de chacun de faire entendre sa voix et de le faire de manière pacifique. » Ou encore, la RBC soutient une transition. Tu peux ronfler pendant ce temps-là, Mathieu, ça me ferait quoi? La RBC soutient une transition inclusive en finançant des projets innovants, responsables et renouvelables. Tu veux plus?
Non, laisse faire la RBC.
La banque.
Et la semaine précédente, je me fais museler, là. Et la semaine précédente, des militants et militantes avaient pris pour cible l'ex-ministre conservateur et actuel dirigeant de la RBC, Michael Fortier.
Ah, notre meilleur.
En pleine nuit, deux voitures qui se trouvaient juste devant son domicile à Mont-Royal ont été incendiées.
À Ville-Mont-Royal, oui.
L'action directe a été revendiquée sur le site de diffusion de nouvelles anarchistes Montréal contre Réformation. Je cite un extrait du texte. « Pendant que fondent les glaciers, que la sécheresse, le feu et la famine se propagent, M. Fortier pense peut-être que son argent et ses contacts l'épargneront, lui, ses enfants et ses petits-enfants. Mais les enragés connaîtront les noms des grands responsables. Il doit comprendre que personne n'est à l'abri dans ce merdier. Il n'y a aucun doute que M. Fortier se sent bien à l'aise avec la décision de son patron de poursuivre le financement du gazoduc Coastal GasLink ou de tout autre projet dégueulasse financé par la RBC.
Mm-hmm.
De nombreuses autres actions directes ont également été revendiquées sur Montréal contre Info et ont ciblé les installations de la RBC à Montréal ces derniers mois, entre autres à la place Ville-Marie et à Westmount, mais il y a eu aussi des actions à Toronto.
Oui.
Il faut savoir que la RBC finance la construction du gazoduc de Coastal GasLink à hauteur de, tenez-vous bien, 344,1 millions de dollars canadiens. Ça, c'est selon le rapport Banking on Climate Chaos 2022, qui est produit par une coalition d'organisations écologistes. La banque est également le plus grand bailleur de fonds de l'industrie des combustibles fossiles, de l'industrie des combustibles fossiles
au Canada.
Au Canada.
Avec des milliards de dollars, ouais.
Alors, eh bien, écoutez,
fuck
moi, j'ai rien contre les décorations de la RBC.
Non, non, tout à fait.
Disons-le comme ça.
Comme ça. Donc, quelques notes de musique et on revient avec la conclusion. L'ours de l'Ouest mange le lion de la RBC. Hein? On a vu ça visuellement à quelques reprises depuis quelques mois.
OK.
OK, ça m'est venu comme
c'est,
ça.
C'est ça les décorations de la RBC?
Entre autres,
ah,
oui.
Oui, on l'a vu sur des bannières.
Ben,
c'est
oui,
ça que tu voulais dire. Oui, excusez-moi, ça m'a pris du temps.
Voilà. Donc, quelques informations d'événements ou de choses qu'on vous suggère. Ben, j'avais préparé il y a quelques jours l'émission qui devait avoir lieu la semaine passée. Donc, ce soir, pour ceux et celles qui sont à l'écoute et qui sont pas très loin du centre-ville
ce
de Montréal,
soir, mardi,
ce
oui.
soir, mardi le 7 juin, oui, j'y arrivais. Lancement de la revue Le capitalisme de surveillance menace à la démocratie et aux droits par la. C'est la revue Droits et libertés de la Ligue des droits et libertés du même nom. C'est au Centre Saint-Pierre ce soir à 19h avec des panélistes et avec discussion. Ça a l'air d'être un beau numéro, donc on vous encourage à vous le procurer. Capitaliste de surveillance qui est de plus en plus dans l'actualité, dans les têtes et dans les concepts ces temps-ci. Donc, à suivre avec tout ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi. Donc, ce soir au Centre Saint-Pierre. Sinon, l'artiste Niap rend hommage au travail des femmes inuites au musée McCord. L'exposition Pikitiapit sera présenté jusqu'au 21 août 2022. Des discussions, de conférences et des ateliers de perlage sont prévus ce printemps et cet été en marge de l'exposition. Niap, originaire de Coudjouac, qui propose une œuvre en dialogue avec des objets de la collection du musée, d'artefacts, donc inuits.
Oui, ils font souvent ça, le musée McCord.
Exactement. Pikitiapit signifie en inuktitut chose précieuse et ses œuvres sont surtout basées sur la couture et le perlage. Donc, Niap, que je connaissais pas, mais ça a l'air assez intéressant. Et dernière nouvelle, dernière information, c'est juin, c'est le mois national de l'histoire autochtone. Autant c'est reconnu par les Autochtones que par les gouvernements. C'est partout au Canada, dans toutes les provinces. Programmation riche et diversifiée un peu partout. À Montréal, entre autres, ça vous intéresse, il y a des belles choses à la BANQ, Bibliothèque nationale, et
ouais,
au Jardin botanique.
C'est le moins joli autochtone, c'est ça.
J'y arrive, Marie-Ève. À la BANQ et au Jardin botanique. Sinon, il y a entre autres Joli autochtone, qui est une invitation lancée à tout le lectorat québécois à découvrir les voix des auteurs, autrices autochtones. Activité autour de la littérature autochtone, ça se passe beaucoup dans les librairies, dans les bibliothèques, et on vous invite à aller sur le site Les Libraires pour des lectures suggérées. Il y a plus de 70 librairies indépendantes qui participent, joliautochtone.ca. Et pour l'ensemble du mois national de l'histoire autochtone, j'ai essayé de trouver un site où il y avait toute la programmation. C'est difficile à centraliser. Donc, aller faire un tour un peu partout, mais c'est beaucoup culturel, c'est beaucoup aussi des trucs sociaux, des trucs de contenu, des trucs pédagogiques. Et on est en route vers le 21 juin, qui est la Journée nationale des peuples autochtones, où il y a beaucoup de manifestations, entre autres. Donc, on vous en reparle dans 2 semaines. Donc, c'était ça pour les petites infos, là,
pas dans
d'activité.
Dans 2 semaines, la semaine prochaine.
Oui, j'allais dire justement le 16 juin, notre prochaine émission, vu qu'on est un peu, décalé dans le temps. Donc, c'est la fin tranquillement. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Marie-Ève, je te remercie.
Je te remercie aussi pour ton animation toujours aussi...
Mon quoi?
Ton animation toujours aussi serrée et enthousiaste.
Oui, tout à fait. Merci, Simon.
Moi, j'aimerais remercier notre auditoire.
Oui, c'est très à propos. C'est très, très à propos. Mais merci.
Vous deux aussi, bien sûr.
Bien sûr. Donc, si vous voulez réécouter l'émission, c'est entre autres sur notre page sur le site de Choc, sur notre site aussi apatridesanonymes.info. Et donc, on vous revient le 16 juin. Ça se pourrait qu'on vous parle peut-être des élections colombiennes. Je lance ça. On est entre les deux tours actuellement. Il y a un candidat de gauche qui est en avance. D'ailleurs, le nouveau président chilien était en visite à Ottawa hier avec Justin Trudeau. Gabriel Boric, le Gabriel du Chili, ancien leader étudiant, qui a été élu il y a quelques mois. Donc, voilà, je voulais rajouter quelques petites nouvelles comme ça. Donc, merci tout le monde. On va finir en musique quand même, faut pas oublier. Il nous reste quelques minutes. L'artiste Thomas Carbou, qui est de Montréal, son album s'appelle Earth, est sorti en février... la pièce s'appelle Earth, et c'est Les Quatre éléments, c'est le nom de l'album, c'est sorti en février dernier. C'est un vétéran de la scène jazz et ambiante à Montréal. Il est accompagné du très bon saxophoniste Eric Harve et du très bon percussionniste Patrick Graham, aussi en trio, sur cet album. Donc, on va planer et on va écouter dans nos oreilles qu'est-ce qui se passe dans notre tête dans les prochaines minutes. Et donc, à tout le monde qui nous écoute en direct, bonne soirée. Aux autres, ben... bonne journée. Et puis, on se reparle le 16 juin en direct ou en balado dans la quatrième dimension.
Bonne soirée.
Bonne soirée.